Robert confirme, il dit, concernant le relâchement généralisé, mon idée, c'est que les gens croient à tort que lorsqu'on connaît quelqu'un ou un groupe de personnes qu'on rencontre, on n'a plus besoin de se distancer et encore moins de porter un masque. Alors, il dit, dans mon cas, tous nos amis ne se soucient pas de la distance vu qu'on se connaît bien. Puis c'est la même chose avec nos enfants, nos petits-enfants. Les rassemblements entre amis ou membres de la famille ont repris exactement comme avant la COVID. Ça me déprime pas mal, dit Robert. Il y a des gens parmi eux qui travaillent encore, qui portent pas de masque, qui sont au travail. La distanciation est loin d'être appliquée. Finalement, là, on fait comme si de rien n'était, comme si la COVID n'existait pas. Évidemment, j'ai l'impression, moi, qu'il y a comme un sentiment de sécurité qui s'est installé pour toutes sortes de raisons. On va en discuter avec Marc-André Gagnon, qui est prof de politique publique à l'Université Carleton. Il est spécialisé en politique pharmaceutique. Bonjour, Monsieur Gagnon.
Bonjour, Mme Maréchal.
Ce sentiment, ce faux sentiment de sécurité, parce qu'on pourrait dire, bon, on est faussement en sécurité avec ce que nous a dit le docteur François Marquis, là, cette crainte également d'une resurgence de COVID. François Legault est très inquiet. Là, je décelais dans son ton hier véritablement l'inquiétude des jours de confinement. Est-ce que le fait qu'on parle beaucoup de vaccins, qu'on semble dire, ça sera pas long, là, ça s'en vient, Donald Trump le premier, pour des questions électorales, on s'en doute, est-ce que tout ça, ça encourage pas ce relâchement sanitaire?
Ben, en fait, c'est sûr qu'on peut le voir comme ça parce que là, on regarde cette espèce de course au vaccin qui est présentée un petit peu comme la panacée qui va régler tous nos problèmes liés à la pandémie. Déjà, la Russie a annoncé qu'ils commençaient une campagne de vaccination comme s'ils avaient gagné cette course au vaccin. Aux États-Unis, Trump a annoncé la semaine dernière qu'il allait avoir un vaccin disponible avant les élections, carrément. Le problème, c'est que au niveau des vaccins, on n'est pas rendu là. Et au niveau des vaccins, faut arrêter de voir le vaccin comme étant le remède miracle qui allait tout régler. Là, en ce moment, dans cette course folle qu'on a, faut s'attendre que l'efficacité qui va être exigée du vaccin risque d'être assez modeste. C'est-à-dire qu'on est prêt à prendre un petit peu n'importe quoi, mais un vaccin, ça peut faire différentes choses. Ça peut réduire la sévérité des symptômes, ça peut réduire notre capacité de se faire infecter, puis ça peut réduire notre potentiel de contagion des autres. Mais si on réduit la sévérité des symptômes de 20% ou notre potentiel de contagion de 20%, ben c'est très peu. La pandémie reste là, reste bien présente. Donc c'est clair que en ce moment on présente le vaccin de manière très politisée, en particulier aux États-Unis. Ça va être ce qui va régler la crise et on va pouvoir passer à autre chose. Non, on n'est pas rendu là tout simplement.
Est-ce que vous pensez que ça crée ce faux sentiment de sécurité ou ce sentiment de sécurité, là, faux ou non? Est-ce que vous pensez que ça exacerbe ça, le fait de discuter autant de ce vaccin? Miracle?
C'est clair qu'au niveau de la population, en fait, là, on a vu aussi des annonces au niveau de nouveaux traitements, par exemple. Là, c'était sur le plasma de convalescents. Donc, on présente comme si les problèmes étaient réglés. L'idée, c'est qu'au niveau des autorités sanitaires, dans cette politisation un petit peu de la course au traitement et des vaccins, on baisse les standards d'efficacité requis pour permettre l'entrée d'un nouveau traitement ou d'un nouveau vaccin. Donc, pour moi, oui, effectivement, il y a l'impact un petit peu psychologique au niveau de la population qui peut créer ce relâchement-là. Pour moi, le problème, c'est aussi que, en descendant nos standards requis en termes des autorités sanitaires, ben là, on ralentit carrément l'arrivée de traitements potentiels qui seraient réellement efficaces. Juste un petit exemple là-dessus. La FDA aux États-Unis, qui est l'équivalent de Santé Canada, ben simplement dit, ben là, nous, on va accepter une autorisation d'urgence quand il va y avoir des tests qui vont être faits sur un tout petit groupe de population pour un vaccin. Mais cette annonce-là a fait en sorte déjà qu'il y a des essais cliniques de phase 3 pour tester à la fois l'efficacité et la sécurité du vaccin ont été interrompus aux États-Unis en disant on n'aura plus besoin de faire ces tests-là parce que on va pouvoir être autorisé avec finalement des plus petits essais cliniques qui sont pas très significatifs. Donc on se retrouve dans une dynamique où est-ce que parce qu'on veut tellement avoir un traitement, on va avoir des traitements qui sont inférieurs à ce qui serait normalement requis et on risque de se retrouver avec des vaccins qui font pas le travail, alors que effectivement dans la population, on continue à croire, à avoir cette croyance-là que ben le vaccin c'est la solution. Ben non, on risque d'avoir des vaccins qui vont simplement diminuer quelque peu de 20-15% la sévérité des symptômes. Ça fait une belle différence, c'est un bénéfice clinique qui est intéressant, mais ce n'est pas ce qui permet d'enrayer une pandémie.
Et ça risque de faire du dommage aussi et de donner des munitions à tous ceux qui sont anti-vaccins, qui disent que les vaccins, de toute façon, ça marche jamais. D'avoir un mauvais vaccin, finalement, ou un vaccin inférieur au standard habituel, de ce que vous nous dites, Marc-André Gagnon, c'est que c'est finalement pas une bonne idée. Il faut tout sauf couper les coins ronds, là.
Bien, tout à fait. Il faut comprendre, il y a déjà une hésitation vaccinale et au niveau des autorités sanitaires, on a besoin de la confiance de la population. Et la confiance de la population, elle se gagne goutte à goutte, mais on peut la perdre une piscine à la fois. Si on met un mauvais vaccin, on commence une campagne avec un vaccin qui est inférieur, au final, les gens risquent de poser beaucoup de questions et ça risque d'alimenter davantage l'hésitation vaccinale. En particulier, lorsque les autorités sanitaires, bon, c'est moins le cas au Canada, là, j'insiste, mais aux États-Unis, à la fois la FDA, à la fois la CDC, l'équivalent de l'Agence de santé publique, clairement, dans les conférences de presse récentes avec le président Trump, sont venus faire des annonces qui a aucun sens en termes scientifiques. On a eu la FDA qui est venue mentir sur le plasma de convalescents, la CDC qui a changé ses lignes directrices pour le testage qui avait aucun lien avec la santé publique, mais on cherche à faire plaisir au président Trump. Ben, si on peut pas faire confiance aux autorités sanitaires, ça pose problème. Ce n'est pas le cas au Canada. Nos autorités sanitaires sont plus solides, mais on s'entend que si demain matin, on commence une campagne de vaccination aux États-Unis, ça fait une énorme pression pour que le Canada emboîte le pas de la même façon. Mais on risque de se retrouver à ce moment-là avec effectivement des produits qui sont inférieurs.
Merci beaucoup, Marc-André Gagnon. C'est passionnant de vous entendre. On aura l'occasion de se reparler sans doute prochainement. Professeur de politique publique à l'Université Carleton, spécialisé en politique pharmaceutique. On s'arrête ici et on poursuit tout de suite après la pause. C'est vraiment super intéressant d'entendre ce professeur spécialisé en politique pharmaceutique, Marc-André Gagnon, qui nous disait que la course au vaccin, c'est tout sauf une bonne idée. J'espère qu'on comprend tout ça et j'espère aussi qu'on comprend que aux États-Unis, quand Trump promet un vaccin avant les élections de novembre, d'abord, c'est pas vrai, c'est dans 2 mois, il n'y arrivera pas, 3 mois, mettons, là, à peine. Et ce n'est que pour des raisons électoralistes, là. T'as bien beau dire que t'es le bon Dieu puis tu vas régler tous les problèmes de la Terre, ça veut pas dire que c'est vrai que ça va arriver, mais ça se peut que le monde vote pour toi, tu sais, ça marche un peu comme ça. J'aimerais entendre notre invité, le docteur François Marquis, chef de service aux soins intensifs à Maisonneuve-Rosemont, par rapport à ce que vient de nous dire Marc-André Gagnon, là, que si on trouve un vaccin, François, il risque d'être inférieur au standard habituel, puis effectivement, on sait que normalement, pour faire un vaccin, c'est 10 à 15 ans. C'est clair qu'on va couper les coins ronds, là.
Mais en fait, moi, je pense que dans tout ce qu'il a dit, il a absolument raison. Là, ce qu'on vit présentement pour la recherche du vaccin, là, c'est une répétition de la guerre froide. C'est une niaiserie là de course vers qui va mettre son premier pied sur la lune. C'est la même chose. Là, les puissances mondiales qui disent toutes qu'ils vont avoir raison. Ce qu'on sait, c'est qu'historiquement, dans l'histoire de la médecine, à chaque fois qu'on a coupé les coins ronds, on l'a regretté. Donc, je pense que c'est pas le temps de couper les coins ronds. La raison pourquoi il y a des études phase 1, phase 2, phase 3, mise en marché, études de phase 4, c'est qu'on sait que c'est la façon sécuritaire de le faire. On ne veut pas jouer médicalement avec la santé des gens pour bassement là, de l'électoralisme puis de la politique aérienne. Je pense que ça, c'est clair là, pour tout le milieu médical. Et je pense qu'au Canada, il faut absolument garder la tête froide et continuer à faire de la science puis de la médecine selon les standards, et ça va être tentant quand un vaccin va sortir d'en faire la promotion comme s'il était parfait. J'aimerais ça qu'il soit parfait, là. Mais je veux voir les chiffres, et effectivement, l'efficacité du vaccin se mesure de plusieurs façons. Il faut comprendre qu'il va y avoir non seulement du marketing, mais de la politique là-dessus, et il faudra être très, très, très vigilant pour s'assurer, pas parce que j'ai peur des vaccins. Je pense que les vaccins fonctionnent très bien, que c'est une bonne chose, mais qu'il va falloir s'assurer que la population reçoit un vaccin de qualité Et ça va être au corps médical et au corps scientifique d'être les chiens de garde de ceux qui voient surtout du profit puis de l'opportunisme.
Mm-hmm. En attendant, est-ce que tu penses que ça contribue à cette espèce de sentiment de sécurité qu'on peut avoir aujourd'hui, 5 mois après le début du confinement ici, alors que tout le monde retrouve un peu sa routine, que l'école primaire, secondaire a repris quasiment à la normale? Beaucoup de gens m'écrivent là-dessus puis me disent qu'ils sont d'accord avec le fait qu'on trouve ça un peu incohérent aussi chez eux, le fait que les plus jeunes vont à l'école en présentiel, mais qu'au cégep puis à l'université, c'est à distance. Il y a quand même, il y a tout ça aussi là, qui va peut-être pas aider à ramener les gens à leurs responsabilités premières là, vis-à-vis des autres.
Bien, effectivement, le fait qu'on parle beaucoup d'un vaccin et que tout le monde proclame qu'ils sont à 5 minutes de réussir à le mettre en marché, là, c'est certain que les gens se disent « bon, mais finalement, c'est peut-être moins dangereux qu'on pense, le vaccin s'en vient », mais la réalité... Ouais. C'est pas ça, le vaccin. Un vaccin efficace, à moins qu'on soit extraordinairement chanceux, ça va prendre plusieurs mois avant que ça arrive pour la simple raison qu'on n'aura pas... Même si on a le vaccin, il faut faire les doses et fabriquer des milliards de doses. Les gens n'ont pas conception du chiffre que ça veut dire, là. On travaille très fort pour faire des doses de vaccins de grippe d'année en année, alors qu'on sait qu'à chaque année... On connaît la recette, et il y a des années où c'est difficile d'arriver au bon nombre de doses, et là, on parle essentiellement de vacciner une planète.
Mm.
C'est ça le concept. Ouais. C'est qu'il n'y a pas juste le Québec qui va vouloir son vaccin. Il y a bien du monde qui va vouloir du vaccin en même temps, et ça va être une espèce de course un peu effrénée pour avoir ce vaccin-là. Donc, même si demain matin, quelqu'un mettait sur le marché un vaccin 100% efficace, ça ne serait pas une solution à la deuxième vague parce qu'on n'aura simplement pas assez de doses.
En même temps, Justin Trudeau contribue aussi à ça, à cette espèce de croyance que le vaccin va être la panacée, parce que là, ils ont annoncé hier que le Canada avait des ententes conclues avec des compagnies pharmaceutiques américaines, Novavax, Johnson & Johnson, entre autres, là, pour éventuellement ce vaccin. Là, ils disent que les résultats sont prometteurs, puis si un de ces vaccins-là passe les tests finaux, là, l'entente qui a été signée avec le fédéral, ça fait en sorte que les Canadiens vont être parmi les premiers à avoir les doses nécessaires. On parle de 190 millions de doses qui seraient mises de côté là, pour les Canadiens.
Ça
contribue à tout ça. On a l'impression qu'on va être dans les premiers à l'avoir puis que ça va être correct. Là.
Mais ça, c'est... Comment je pourrais dire? La première vague m'a démontré que les alliés traditionnels, des fois, peuvent nous jouer des tours. Je me rappelle de cargaisons de masques qui sont sérieusement disparues.
Ouais.
C'est beau, les ententes, là. C'est super mignon qu'ils signent des ententes, mais quand les doses de vaccins vont être là, mon feeling à moi, c'est que ces ententes-là doivent avoir des drôles de petites clauses. Puis qu'est-ce qui arrive, par exemple, hein, je donne un exemple simple, le vaccin ne sera vraisemblablement pas fabriqué au Canada.
Mm-hmm.
Donc, si simplement le gouvernement du pays dans lequel le vaccin est fabriqué, si le gouvernement dit qu'il n'y a aucune dose qui sort du pays tant que ma population n'est pas vaccinée, qu'est-ce qu'il va faire le Canada? Oui, on a une entente, mais ça ne sort pas. On a eu le même problème avec les masques, là. Il y a des pays qui...
La compagnie 3M, là, je m'en souviens tout à fait. Je pense que les auditeurs s'en souviennent aussi. Dis-moi, François, tu dis en début d'émission que ta première priorité, finalement, comme c'est assez stable au niveau des soins COVID, aux soins intensifs, ta priorité avec ton équipe de médecins, c'était vraiment de gérer tout ce qui s'appelle autre chose que COVID-19. Parle-moi de ça un petit peu là, pour rassurer les gens qui seraient malades d'autre chose. Ça veut dire quoi, ça?
En fait, nous, on n'a pas vraiment eu d'été dans le sens où habituellement, l'été, il y a une baisse dans la clientèle. Il y a moins d'opérations électives. T'sais, les hôpitaux travaillent moins l'été. Là, cet été, c'est pas le cas du tout. Ce que je peux dire à la population, c'est que si vous avez besoin d'aller à l'hôpital, allez-y. Il y a très, très peu de COVID dans les hôpitaux. Je sais qu'il y a encore des gens qui ont peur. On a tous des mécanismes. Nous, on a travaillé très, très fort à avoir des protocoles où quand les gens sont identifiés COVID, il y a des dépistages, ils sont mis dans des zones sont isolées. Donc, il y a une sécurité. C'est ce que le gouvernement nous a demandé depuis la première vague, de trouver une façon de fonctionner avec le COVID, sans paralyser l'hôpital et sans pénaliser les gens qui auraient une maladie autre ou un besoin du système de santé autre, puis qui n'ont pas rapport avec la COVID.
Ben, merci beaucoup.
Ça fonctionne.
Merci, Dr. Marquis. Merci bien.